Je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui si je m'étais pas plantée plein de fois, quoi. Je pense que clairement, faut pas prendre les échecs comme des échecs. C'est des étapes vers la réussite, plutôt.
Bienvenue dans le podcast Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Il faut faire des études, trouver un CDI, puis ensuite prendre un appartement pour éventuellement se mettre en couple, se marier, bon on s'en fout, mais c'est un modèle qui est tout à fait viable, tout à fait honorable et respectable, c'est pas du tout ça le sujet, c'est plus que c'est dommage de dire qu'il y a qu'un seul modèle valable alors qu'en fait on est 8 milliards d'individus sur Terre bientôt, je pense pas qu'on soit 8 milliards à aspirer à la même chose, c'est impossible.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille, et pour ce 4e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Bettina, qui est une ancienne étudiante de l'université. Elle était à l'ESTIS en licence 3 de commerce international et a également effectué son master à la faculté de lettres et sciences humaines en affaires internationales trilingues. Bonjour Bettina, je suis ravi de t'avoir avec moi pour ce moment et j'espère que tu vas bien.
Bonjour, oui, enchantée, ça va très bien, je suis ravie d'être là aussi.
Qu'est-ce que ça te fait de revenir à l'Université catholique de Lille après ces quelques années passées loin, et ça on va en parler.
Ça fait toujours plaisir de revoir l'université, bon là c'est quand même dans des conditions un peu particulières, il n'y a pas grand monde mais c'est chouette.
Alors avant ton arrivée à l'ESTIS et ensuite à la FLSH, quel était ton projet professionnel? Est-ce qu'au lycée tu avais déjà une idée de vers quoi tu souhaitais te destiner?
Alors pas du tout, au lycée j'étais en sciences économiques et sociales, filière ES, et c'est un de mes profs, mon prof d'économie, qui m'a suggéré de partir en classe préparatoire parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et que j'avais des plutôt bons résultats. Donc il m'a dit fais ça, c'est assez général, ça va te former et après tu verras. Et effectivement après ces deux années de classe prépa, j'ai continué vers le commerce international parce que c'était toujours assez ouvert et que ça pouvait du coup pas me fermer de porte en tout cas, et plutôt m'en ouvrir en fait.
Donc tu t'es dit, finalement au lycée je sais pas trop ce que je vais faire, donc je vais partir faire une prépa et peut-être que ça m'ouvrira plus de portes. Et ça a été le cas apparemment.
Ouais, tout à fait. Bah c'est vrai que le parcours prépa c'est hyper formateur, c'est difficile et pas toujours très gai les deux ans. En général on en ressort bien rincé, mais en tout cas ça apprend pas mal de bases de pédagogie et de sérieux, de rigueur, etc. Et après c'est vrai que le parcours plutôt commerce international, ça reste, on apprend plein de choses et ça nous permet de commencer à entrevoir la diversité des chemins de vie, du champ professionnel en fait, qu'on a envie de se façonner, quoi. Donc c'est assez chouette. En tout cas, ça correspond aux gens comme moi qui savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire pour l'instant.
Et comment se sont passées un peu tes études à l'Université catholique de Lille, que ce soit à l'ESTIS ou à l'FLSH? Tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que pendant ton parcours, t'as douté, tu t'es posé des questions, t'as réfléchi sur ce que t'allais faire?
Alors, oui, pas mal. En fait, quand j'ai fini mes années de prépa, je me suis rendu compte que ce que je voulais par-dessus tout, c'était de voyager. J'avais déjà cette forte appétence depuis très longtemps. Et en fait, j'ai choisi justement des écoles où il y avait beaucoup de stages à l'étranger. Donc l'ESTIS ou la FLSH, du coup, ça rentrait totalement dans le propos. Et du coup, en fait, en rentrant dans ce cursus-là, j'ai pu faire un stage en Espagne, je suis partie en Erasmus en Hongrie, et ma dernière année, donc Master 2, j'ai fait 6 mois de stage au Cambodge. Et en fait, c'est un peu ces stages-là qui ont permis de me rendre compte que moi, ce que je recherchais, c'était pas tant une carrière et un secteur, c'était plus un idéal de vie, en fait, juste une certaine liberté. Et je me suis dit, bon, le secteur du tourisme, c'est quand même super pratique parce que j'ai une forte appétence pour les langues, enfin, d'où le Master international trilingue, et j'aime bien voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir plein de choses, donc ça m'a pas fait douter, ça m'a vraiment conforté dans le choix de première carrière, on va dire. Les premières 6 années de ma carrière, je les ai passées dans le tourisme, et c'est un peu grâce à ces années à la FLSH et à l'ESTIS, ouais.
Tu viens de le dire, tu as fait une année d'études en Hongrie. Mm-hmm. Donc c'était un Erasmus sur 6 mois ou un an?
6 mois.
Sur 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles compétences ça t'a apporté? Est-ce que déjà, du coup, toi qui as l'appétence du voyage, ça a forcément dû te plaire, je suppose. Et au vu du sourire qu'ils essaient sur ton visage, je suppose que oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience?
Oui, c'est vrai que déjà au niveau juste de l'ouverture linguistique, c'était chouette parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre le hongrois. Enfin, clairement, j'ai plus beaucoup de reste.
Tu pourrais pas me faire une petite phrase là rapidement?
Yonapot Kivanok, ça veut dire bonjour. Voilà. Mais déjà rien que l'ouverture linguistique, c'était hyper chouette, et le fait d'être plongé dans une autre université pendant 6 mois ou un an, parce qu'on peut faire aussi un an d'Erasmus, enfin c'est une opportunité incroyable quand même, je pense que c'est vraiment chouette. Et des souvenirs qui me viennent comme ça quand j'y repense, c'est le fait de faire des projets avec d'autres personnes en anglais, c'est-à-dire que même si on peut avoir des cours en anglais à l'université en France, etc., le fait de le faire dans un autre pays, que je sois donc en contact d'étudiants hongrois et qu'on doit faire des choses dans une troisième langue qui est ni leur langue maternelle ni la mienne, c'est quand même un challenge qui est un petit peu différent. Et j'ai des super souvenirs justement de vision des choses. On n'a pas du tout la même approche parce qu'on n'a pas du tout la même background universitaire, quoi. Et c'est vraiment top, quoi. pour le coup, ça aide beaucoup et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir moins peur, je pense, de l'ouverture au monde aussi, de se dire que la diversité, c'est chouette. Et non, franchement, c'était une super expérience.
Donc, c'est un truc que tu conseillerais à des étudiants qui se poseraient peut-être la question de est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Clairement. Oh, oui, je pense que s'il y a la possibilité, au niveau de l'université, après une possibilité financière, je sais que... Alors, moi, l'Erasmus, c'était en 2013, mais je pense que ça a pas mal changé, peut-être au niveau de la législation, des budgets qui sont alloués aux étudiants et étudiantes pour partir faire un Erasmus. Mais si c'est possible, ouais, il faut le faire. Franchement, il y a une diversité de destinations qui est incroyable et des chouettes rencontres. Enfin, moi, j'ai encore des amis que j'ai rencontrés en Erasmus, c'est 8 ans, 9 ans plus tard, quoi.
Et t'es encore en contact avec eux?
Ouais. Complètement.
Et est-ce que tu vas retourner les voir, un de ces quatre, ou est-ce qu'eux vont venir en France peut-être?
Ben, c'est déjà été le cas. Il y a des personnes qui sont venues me voir en France. Moi, je suis allée voir une amie en Norvège et une autre amie en Finlande. Et c'est incroyable. Et là, il y a une personne que j'ai rencontrée en Erasmus qui nous a annoncé son mariage, une autre qui a annoncé sa grossesse, et c'est trop cool, quoi. Et du coup, c'est des occasions de discuter, peut-être potentiellement de se revoir en plus, ouais.
C'est quoi le meilleur souvenir que tu as de la Hongrie? Parce que moi, je ne connais pas du tout ce pays et je suis très intriguée. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi la Hongrie?
C'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi la Hongrie? C'était mon premier choix en plus, parce que quand tu fais une demande d'Erasmus, tu as 3 choix. Mmh. C'était le premier, donc j'ai eu le premier choix, j'étais contente. Le reste, c'était la Pologne ou la Slovénie, donc c'était plutôt Europe de l'Est.
Ouais, carrément.
Je l'ai fait parce que c'était parmi les destinations les moins chères et j'avais un petit budget étudiant. Clairement, je ne vais pas mentir. Et aussi parce que je ne connaissais pas du tout cette région et que je me suis dit, franchement, c'est l'occasion. Il y a un cadre sécurisé qui est le cadre quand même de l'université. Je pars pas en terrain inconnu, il y a des soirées Erasmus et au niveau du corps enseignant, quand tu arrives en Erasmus, tu as des contacts déjà sur place, donc c'est quand même facile et ça fait pas si peur que ça quand tu as envie de partir, mais que tu as un petit peu peur, ce qui est normal, hein, je pense, c'est assez humain. Alors, meilleur souvenir, c'est pas vraiment lié aux études, mais c'est plus lié à la possibilité de partir en week-end et en voyage très souvent, parce qu'en Erasmus, il y a une partie études, mais c'est quand même des emplois du temps assez allégés par rapport à ce qu'on peut connaître quand on fait son cursus classique. Donc, je dirais, le fait de pouvoir partir tous les week-ends, je suis partie en Slovaquie, je suis partie en Bosnie, je suis partie au Kosovo, je suis partie en Croatie, enfin, c'était sympa.
Ouais, t'as fait un petit tour d'Europe de l'Est, quoi. Tu t'es dit, allez, banco, c'est parti, on y va, quoi. On
c'était
visite
cool.
Du pays.
Carrément.
T'avais des clichés avant de partir en Hongrie ou...
Non, j'avais pas de clichés du tout, franchement, aucune idée reçue. Enfin, j'ai très peu d'idées reçues sur un pays quand je l'ai pas visité moi-même. Je suis plutôt du genre à être assez prudente et pas trop écouter les
on-dit.
Ouais, les on-dit, je pense, parce qu'il y a beaucoup de on-dit assez erronés. Et du coup, je m'étais pas fait d'idées. Juste, je savais plus ou moins à quoi ça ressemblait la capitale Budapest. Moi, j'étais pas dans la capitale, j'étais dans une toute petite ville. Et c'était vraiment cool, du coup, parce que c'est encore plus immersif, quoi. Donc, non, pas d'idées reçues.
Et quand t'es rentrée de Hongrie, donc t'as poursuivi ton master à la FLSH,
ouais.
C'était quoi les cours qui t'intéressaient le plus?
Alors, mon cours préféré... Alors là, j'ai pas une excellente mémoire de tous les cours, c'était vraiment... Enfin, j'ai un recul qui est hyper positif, tu vois. Ah si, il y a un cours que j'aimais bien, c'était le cours de... Ah, je sais plus le nom. Mais en tout cas, c'était un cours avec un prof d'hôtellerie qui gérait les prix, en fait, la manière de fixer les prix dans le groupe Accor. Donc, le groupe d'hôtellerie Accor. Et c'était hyper cool parce que du coup, c'était un cours sur comment les prix fluctuent dans le tourisme, donc que ce soit les billets d'avion, les hôtelleries, comment on fixe ça, enfin, comment le marché du secteur du tourisme fonctionne, en fait. Et c'était vraiment hyper intéressant pour le coup. Et après, ouais, il y avait un cours aussi de tourisme qui était très chouette, pour voir plutôt les destinations d'un point de vue commercial et pas seulement d'un point de vue touristique vacances, je veux dire. Donc c'était hyper intéressant.
Une fois que t'as fini tes études, t'es parti directement dans le merveilleux monde qui est le monde du travail, qu'on connaît tous au moins une fois dans sa vie, on y arrive en tout cas. Mm-hmm. T'as commencé à travailler dans l'agence de voyage Eurasia Travel, c'est bien ça? Tu m'excuseras mon accent, qui est spécialisée plutôt dans le tourisme des pays asiatiques.
Ouais.
Et tu as fait des déplacements pour du coup contrôler la qualité apparemment des sites avec lesquels l'agence travaillait. Pourquoi les pays asiatiques? Parce que tu avais une appétence particulière pour ça? Qu'est-ce qui s'est passé un peu?
Donc ma première expérience pro vraiment, c'était au Cambodge. C'était mon stage de fin d'études, donc de 6 mois. Et en fait, c'est parce que moi, je voulais partir à l'étranger, je voulais travailler dans le tourisme. Donc tout simplement, j'ai regardé les offres de stage qu'il y avait dans le secteur du tourisme et dans les agences locales surtout. Et en fait, j'ai découvert une offre de stage à ce moment-là qui était dans cette entreprise. J'ai postulé et j'ai été prise, quoi. Donc vraiment, moi, c'était pas tant motivé par une destination en particulier, c'était plus motivé par le désir de partir loin. C'était vraiment ça. Et du coup, ça s'est super bien passé et ils m'ont proposé de rester en CDI, en fait, après. Et du coup, après ce stage, je suis restée un an de plus dans cette entreprise.
Pendant que tu travaillais, du coup, au Cambodge, c'était quoi un peu tes missions? Raconte-nous, puis même dans tes autres, du coup, on peut le dire, dans tes autres agences de voyage, j'ai vu que tu avais fait beaucoup, du coup, les pays asiatiques.
Ouais.
C'est devenu un peu une spécialisation finalement dans le tourisme.
Tout à fait.
C'était quoi tes missions? Qu'est-ce que tu adorais là-dedans?
Dans ma vie professionnelle, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact clientèle et le fait de faire plein de choses différentes et de mener des projets de A à Z, en tout cas de voir la finalité de ce que tu entreprends. En tout cas, moi, j'étais conseillère voyage, donc vraiment la personne qui est en contact avec le futur voyageur, quoi. Donc, en gros, tu reçois la demande, tu la traites, tu discutes avec le client de ce qu'il a vraiment envie de visiter. Et quand toi, tu connais super bien un pays, comme moi, je connaissais du coup le Cambodge et la Thaïlande, le Vietnam, bah, c'est génial de lui dire... Franchement, par rapport à ce que vous venez de me dire, je peux peut-être vous conseiller, j'ai un petit hôtel pour vous, ça va être génial, ça va trop vous plaire. Et du coup, de faire tout ce process-là, le process bah, de réservation, de facturation, enfin qui est aussi un petit peu d'administratif, mais qui est chouette. En fait, tu finalises ton dossier à toi. Et surtout, ce qui est top, c'est le retour client. Enfin, ça, c'est quand même trop chouette quand la personne a passé 2-3 semaines de vacances dans un pays qu'elle connaît pas, avec ses appréhensions, parce que les gens qui passent par des agences de voyage, il y a plusieurs profils, mais il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur, en fait, de voyager. C'est pour ça qu'ils voyagent pas tout seuls. Et ils sont ravis. Vie et ils se sentent accompagnés, et en même temps il y a quand même un peu de la liberté, parce que le but c'est de faire des voyages sur mesure où t'es pas dans un groupe, ce genre de choses. Enfin, moi en tout cas, c'est les agences dans lesquelles je travaillais, et ouais, le retour client c'est trop cool, quoi. Enfin, les gens ils se sentent hyper sereins, ils ont juste découvert une autre culture d'une manière qui est top, et j'essayais de les accompagner dans quelque chose d'assez éthique aussi, de faire les choses bien, tu vois, de pas les envoyer dans des grosses structures hôtelières ou dans des activités super touristiques qui font que ils vont pas vraiment goûter à la culture locale, quoi. Donc c'était top. Franchement, ça, c'est vraiment le meilleur aspect, je trouve.
Allez, exercice pratique. Moi, j'ai envie de partir en Thaïlande. Comment tu me briefes ?
En fait, le brief, c'est vraiment de poser plein de questions, quoi. Vraiment, c'est savoir qu'est-ce que t'aimes faire, quelles sont tes habitudes en termes de confort hôtelier, parce que, voilà, il y a des gens qui aiment faire du camping et d'autres qui aiment les 5 étoiles. Il faut savoir un peu varier les deux, enfin, savoir le budget, tout ça. Enfin, si c'était toi, mon client, imaginons, on passe 20, voire parfois 30 minutes, soit au téléphone, soit en rendez-vous présentiel, pour découvrir qui tu es et comment t'aimes voyager, quoi, et quelles sont tes peurs, quelles sont tes connaissances du pays, etc. C'est un peu comme ça que ça se déroule.
Je vais partir en road trip sac à dos. Ouais. Vas-y, fais-moi rêver. Quelle destination il faut absolument faire en Thaïlande? Je te teste un peu.
Alors déjà, clairement, Bangkok, c'était un peu mon gros délire, c'est de pas faire juste une journée à Bangkok où tu vas visiter le temple le plus connu, dormir dans genre l'hôtel juste dans le quartier touristique. C'était vraiment 2-3 jours pour aller dans les marchés de nuit où personne ne va et où c'est que des stands de street food avec tous les Thaïlandais qui sortent du boulot et qui passent une soirée entre amis trop chouette, une petite balade en bateau, mais pas dans les canaux touristiques, mais plutôt dans des canaux qui sont moins connus, parce que quand t'es sur place, t'as des contacts différents aussi. Après, le parc national de Erawan, c'est un parc trop trop beau à l'ouest de la Thaïlande, avec que des cascades en fait en enfilade sur 7 niveaux, avec une eau turquoise magnifique, et tu fais ta petite rando. Quand t'as trop chaud, hop, tu t'arrêtes, tu vas te baigner dans l'eau translucide et hop, tu repars. Enfin, trop bien. Et après, tu peux faire des treks dans le nord du pays aussi, en dormant chez l'habitant. Et d'une manière qui est vraiment très respectueuse aussi, parce que ça, c'est aussi une problématique du tourisme et du voyage en général, c'est qu'il faut bien choisir les personnes avec qui on travaille. Et ouais, du coup, petit trek de 2-3 jours, au bord, tu marches au bord d'une rivière pendant 2-3 jours, tu t'arrêtes, tu peux visiter un sanctuaire d'éléphants où tu les regardes juste, il n'y a pas d'interaction spécifique, parce qu'il faut respecter aussi les animaux, et du coup, tu as quand même... cette vision-là en pleine nature, et hop, tu finis dans un super hôtel au bord d'une plage à Koh Samui ou une autre île ou une autre station balnéaire, et le voyage est assez complet et très cool.
Elle est très très forte, parce que du coup là je suis totalement convaincu. Allez, je pars demain, je prends mes
très
billets,
bien.
C'est
là,
parti.
Ça va être compliqué en ce moment. Mais...
T'as passé environ, ouais, t'avais dit, 6 ans en agence de voyage. T'as terminé dans une agence de trekking, j'ai vu, sur mesure. Quelle était la différence un peu avec les autres agences de voyage? Parce que je suis allé me renseigner un petit peu et j'ai vu qu'il y avait des petites différences. Tu pourrais m'en parler un peu?
C'est vrai que chaque agence peut avoir sa spécialité. J'ai travaillé dans des agences plutôt luxe, et là la dernière, c'était une agence sur mesure et plutôt voyageur nature, on va dire. Donc, randonnée, vélo, kayak, enfin, plein d'activités orientées plein air, on va dire. Ouais, la spécificité, c'est que c'est des gens qui ont envie d'avoir un certain rythme dans leur journée, qui apprécient aussi, qui en tout cas sont pas très regardants sur l'hôtellerie, pour qui ça dérange pas de dormir chez l'habitant dans des conditions qui sont un peu rudimentaires parfois, enfin, qui sont vraiment orientés découverte, mais ça c'est très francophone comme manière de voyager de toute façon, qui est vraiment plutôt roots. C'est assez français et c'est vraiment cool parce que c'est orienté authentique et vraiment immersion dans un pays, quoi. Donc c'était top aussi.
Et à la fin de ça, tu t'es dit, allez, c'est bon, j'en ai marre, on va faire autre chose. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand j'ai vu ton profil. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, je vais arrêter ça et je vais me consacrer à autre chose, dont on parlera après, bien sûr. Mm-hmm. tu as changé de perspective professionnelle, de domaine. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Alors, dans les différentes agences dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai pas mal été confrontée à des problématiques éthiques par rapport à mes valeurs, on va dire. Je suis quelqu'un qui est quand même assez engagé au niveau écologique, d'un point de vue personnel et d'un point de vue même un peu plus public et militant, on va dire. Mais c'est vrai que travailler dans le tourisme quand tu es... écolo, c'est compliqué. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en tout cas, c'est pas que j'ai baissé les bras, mais en tout cas, je me suis rendu compte que toute seule, j'arriverais peut-être pas à changer la face du monde dans le tourisme. Je me suis dit, en attendant, peut-être que dans 10-15 ans, je retournerai dans ce secteur-là parce que je trouverai une agence qui me correspond à 100% sur la manière de voyager. Et je pense que, mine de rien, la crise Covid qu'on est en train de connaître va complètement refonder le secteur du tourisme et c'est une très bonne chose. Mais pour l'instant, voilà, je me reconnaissais plus trop dans la manière de faire et je donnais un exemple de fait d'aller visiter des sanctuaires d'éléphants. Moi, je sais que mon ancienne entreprise, quand je travaillais en Thaïlande, le directeur, qui était un Français installé là depuis 30 ans, lui, son business model, c'était faire de l'argent. Il s'en foutait complètement du bien-être animal ou de bien rémunérer les personnes sur place, etc. Et moi, j'ai démissionné de cette entreprise parce que je pouvais pas supporter de cautionner ce modèle-là. Donc moi, je le faisais un peu à ma sauce avec mes clients. Je leur disais, moi, je vous emmène pas là. Donc je leur trouvais d'autres alternatives. Mais ouais, ça devenait compliqué à grande échelle. Et du coup, je m'étais dit... Bon, je pense que le tourisme, pour l'instant, c'est plus trop en accord avec ce que je veux faire, donc on va essayer de tenter autre chose, et on verra bien, quoi. Peut-être que j'y retournerai. Je pense que ce secteur, c'est pas une porte que je me suis fermée définitivement, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai plus envie de travailler là-dedans.
Justement, toi, t'as réhabilité le tourisme à ta sauce.
Ouais.
Et du coup, tu t'es dit, bon, j'ai fait les pays de l'Est de l'Europe, je suis parti dans les pays asiatiques. Et si j'allais faire l'Amérique du Sud direction Guatemala et aller faire des écologes.
Tout à fait. En fait, l'histoire, c'est que quand je me suis installée en Thaïlande, j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari actuellement. Et lui étant chef cuisinier et moi ayant travaillé dans le secteur du tourisme, et en fait, on avait tous les deux une certaine envie d'entreprendre, en tout cas d'essayer de vivre sans avoir un patron ou une patronne. On s'est dit, bon, peut-être on pourrait faire quelque chose avec nos compétences ensemble, quoi. Et on a décidé de déménager et on s'est dit, on va regarder en Amérique latine ce qui se passe pour... éventuellement vivre sur le long terme, voire acheter un terrain. Et en fait, le Guatemala, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe, évidemment. Et surtout, ça fait partie des pays où tu peux être propriétaire d'un lieu, ce qui est très rare. Il y a très peu de pays où tu peux faire ça. Et du coup, on a trouvé un terrain. Il y avait un agent immobilier français qui était là depuis 35 ans, qui habitait sur place, qui a été d'une aide incroyable. Et du coup, on a décidé de monter des petites maisons d'hôtes au bord d'un lac magnifique au Guatemala qui s'appelle le lac Atitlan.
Tu le vends toujours très très bien,
ah,
hein,
oui,
c'est terrible.
Bah, hein, tu te réveilles avec deux volcans en face de toi, clairement, c'est assez joli. Hein. Il fait beau toute l'année, c'est très cool. Donc voilà, on a fait ça et en fait, on avait juste notre petite structure de 2-3 chambres et on était sur Airbnb, on avait monté notre site internet et on a eu plein de clients, des Français, des Belges, des Canadiens, des Américains, des Guatémaltèques aussi. Des locaux qui viennent le week-end, quoi. Et c'était une chouette expérience aussi. Et en fait, ouais, comme tu disais, réhabiliter à sa manière le tourisme, c'était ça, dans le sens où moi, je voulais essayer de laisser le moins d'empreintes possible dans cette expérience touristique. Donc en fait...
Moins d'empreintes au niveau écologique.
Ouais, empreinte carbone, ouais, pardon. Dans le sens où, du coup, toute l'installation était avec des panneaux solaires. Alors voilà, l'énergie solaire, c'est pas le débat du jour, mais je sais que c'est pas forcément le plus écologique finalement, mais en tout cas, c'était l'option la plus simple. Et ensuite, donc, ouais, on avait vraiment tout pensé dans le sens où on voulait faire le moins de déchets. Donc, il y avait zéro plastique dans les chambres. Ce qui est quand même, pour des chambres d'hôtel, etc., c'est assez rare. Nous, zéro plastique dans toutes nos courses. On faisait que des courses en vrac dans les marchés locaux, etc. Donc, une vraie démarche de faire le moins de poubelles possible, en fait, tout simplement, quoi. Comme on habitait au bord d'un lac, l'eau, on l'a refiltrée avant, l'eau des douches, par exemple, ou de la vaisselle, ce genre de choses. On refiltrait tout avant que ça soit remis dans le lac. Et on essayait aussi d'éduquer, entre guillemets, alors c'est pas forcément le bon terme, mais de faire un petit peu de pédagogie, en fait, dans le secteur du tourisme. Donc, le menu, il était végétarien, voire vegan, ce qui, causait pas mal de débats au début avec les clients. Il y en a plein qui étaient, surtout les Américains.
T'as une anecdote sur ça ?
Ouais, ouais. Non, mais alors, on a un couple d'États-Uniens, je sais plus de quel... du Texas, qui sont venus 3 jours. Et le premier soir, ils voient le menu, ils viennent me voir parce que c'est moi qui étais en charge de prendre les commandes, de servir à boire, etc. Et il me dit, en fait, nous, on mange beaucoup de viande. Le mec était très sportif, en fait. Et du coup, je lui dis, oui, mais là, il y a des protéines. En fait, il y avait des œufs et il y avait du quinoa, il y avait des trucs. Enfin, je sais plus exactement quel était le menu, mais en tout cas, il y avait des protéines. C'est pas parce que c'était vegan qu'il n'y avait pas de protéines, quoi. Et du coup, il est venu me voir et m'a dit, bon, bah, je veux bien ce plat-là, mais est-ce que vous pouvez mettre 12 œufs au plat dessus? Comme ça, je suis sûre d'avoir ma dose de protéines. Et il avait plein d'a priori sur la nourriture vegan, quoi. Donc, on a discuté. Et déjà, il pensait que c'était dégueulasse. Du coup, il a goûté 3 jours de suite et était là, ah, c'est quand même pas mal et tout. Franchement, c'était bon. Parce que voilà, enfin, mon mari, il était chef d'un resto vegan avant. Donc, et il est pas du tout vegan lui-même, mais il travaillait dans des restos vegan. Et du coup, bah, il a quand même, enfin, il faisait des chouettes plats, quoi. Et ouais, 2-3 fois, on a eu ça. Enfin, des gens qui nous ont dit en partant, bah, franchement, on n'avait jamais mangé végétarien de notre vie et on a trop kiffé. Du coup, peut-être qu'on va réduire un peu notre consommation de viande. Et moi, j'étais là, oh, genre meilleure récompense, tu vois, parce que c'était pas dans un but moralisateur, c'est juste de dire, ah, vous venez 2 jours chez nous, bah, chez nous, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et c'était cool.
Et la transition entre les agences de voyage et, en pays asiatique et derrière l'Amérique du Sud, ça t'a fait peur de dire, bah, je quitte mon boulot, je sais pas ce que je fais après, mais j'en ai marre, faut que je m'en aille, faut que j'aille faire quelque chose d'autre. Sur ce moment-là, t'as pas eu un moment de doute que t'as peut-être aussi ressenti pendant tes études?
Pas tellement, parce que, alors, enfin, j'ai toujours démissionné de mes boulots, du coup. Je pense qu'au bout d'un moment, t'as un peu l'habitude de quitter un boulot, en fait, et tu te dis, bon, c'est comme ça, quoi. Mais quand même, je tiens à préciser qu'à chaque fois que je quittais un travail, j'avais toujours une ressource derrière, un plan de côté, quoi. Et quand je parle de ressources, je parle soit de ressources financières, soit, enfin, j'ai quand même un certain privilège, tu vois. Enfin, si jamais ça devait quelque chose, s'il devait pas fonctionner, je sais que mes parents, ils sont quand même en backup s'ils devaient me retrouver un moment parce que j'ai plus d'argent, parce que je me suis trompée, etc. J'ai quand même de la chance, hein. Donc je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'on a quand même on n'a pas tous le même privilège à ce niveau-là, et je l'ai et j'en suis consciente, et du coup, ben, c'est tant mieux pour moi, c'est chouette, hein. Mais je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah, oh, mais trop bien, comment t'as fait, c'est un certain travail, un certain choix de vie, de se dire, je quitte des boulots et je vais vivre à l'autre bout du monde, etc. Il y a des peurs à dépasser, mais voilà, j'ai aussi certains privilèges et une certaine chance, quoi. Mais non, du coup, moi, j'ai jamais eu trop peur, parce que en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est l'immobilité, en fait, quoi. Stagnation, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est le fait de rester immobile et de... Moi, c'est ça qui m'effraie, en fait. Donc moi, à chaque fois que je me suis dit, bon, je pose ma démission parce que j'ai un nouveau projet, c'est plus un moteur qu'autre chose, quoi, vraiment. Donc non, j'ai jamais eu trop peur, quoi.
C'est quoi le conseil que tu donnerais à un étudiant qui vient d'avoir son premier boulot, mais qui finalement ne s'y plaît pas vraiment dedans, et du coup, il souhaite partir. C'est quoi le conseil que tu donnes à ce moment-là?
Alors, je trouve qu'écouter des témoignages, du coup, typiquement, ce podcast, c'est une chouette initiative, parce qu'en fait, je pense que le problème dans le fait de se dire, ah, mais peut-être je peux pas changer de vie, ou je peux pas faire ça, c'est des pensées limitantes qu'on s'est mis tout seul dans notre tête, hein, clairement. Il y a des limites qui peuvent arriver d'un point de vue extérieur, mais souvent, on se met nos propres limites en tête. Donc je pense que, ouais, et lire des témoignages, clairement maintenant, on a tellement de ressources. Groupe Facebook de la destination dans laquelle t'as envie de partir, donc il y a des groupes d'expats, etc., ou des groupes de personnes qui vivent sur place. D'écouter des podcasts, lire des témoignages de blogs, etc., je pense que ça met vachement en confiance de se dire, ah, mais telle personne, elle a fait ça, mais pourquoi moi je ferais pas pareil, en fait. Enfin, rien n'est inaccessible, du coup, quoi. Et je pense que ça ouvre vraiment le champ des possibles, de se rendre compte qu'il n'y a pas une voie toute tracée, et que c'est pas parce qu'on a choisi telle carrière, ou en tout cas telle filière à un moment T, qu'on ne peut pas changer, même changer du tout au tout, on en reviendra après, mais clairement, il n'y a pas de limite, en fait, quoi. Enfin, c'est juste que, encore une fois, on se les impose, et il y a aussi une pression sociétale qui est assez présente. Enfin, là, je vais fêter mes 30 ans cette année, et c'est vrai que quand tu dis aux gens, bah voilà, j'ai quitté mon CDI, et j'ai envie de vivre partout dans le monde, j'ai pas envie de me poser trop, enfin, c'est difficile à entendre pour pas mal de personnes, hein, parce qu'en fait, c'est leurs propres peurs qui sont mises... Ils sont vraiment face à leur propre peur, alors que je pense que, ouais, avoir des témoignages et des retours d'expérience, c'est le meilleur moyen de se mettre en confiance et de passer à l'action, du coup.
Et ben justement, toi, t'as décidé de tout arrêter, même l'Amérique du Sud, hop,
ouais.
Parti, pour faire quelque chose de totalement différent. Mais alors, pas vraiment, je dirais pas jusqu'aux antipodes, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qu'on retrouve, notamment sur les valeurs que t'as citées, ouais, tout à l'heure, on les retrouve quand même dans chacun de tes parcours. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça fait quand même une petite ligne conductrice qui est très cool. Aujourd'hui, tu te consacres entièrement à des activités de militante féministe, puisque tu en as une, et qu'il y a aussi une partie écologique. Comment t'as pris l'initiative de te lancer dans un tel projet totalement différent? Comment s'est passée la transition entre ces domaines? domaines du coup de d'agences de voyage, de tourisme et puis après d'activités féministes dont on détaillera évidemment les différents aspects juste après.
Oui, alors déjà tu as utilisé le bon mot, c'est transition, parce que je pense que alors c'est un peu les pendants négatifs d'Internet, c'est qu'on monte beaucoup de parcours de réussite, d'entrepreneurs qui lancent leur boîte et hop, au bout de 3 mois, c'est le succès international est incroyable.
Startup Nation. Ouais.
Enfin, je pense qu'il y a un moment, faut pas se voiler la face, ça se fait pas en un jour, clairement. Et je pense que c'est des personnes qui ont certainement essayé 10 milliards de trucs avant, voire échoué 10 milliards de fois avant de réussir. Hein. Donc ça, on le dit pas trop. Mais du coup, juste pour résumer, en fait, ça fait donc depuis 2015 que j'ai ouvert je me suis mise en statut auto-entrepreneur en France parce qu'en fait, j'ai toujours aimé écrire. Donc depuis longtemps, j'ai eu 10 000 blogs, 10 000 sites internet. Enfin, c'était un peu mon délire. Et en fait, j'avais jamais trop trouvé mon angle d'attaque. Et donc, ouais, en 2015, j'ai ouvert ce statut parce que je voulais commencer à essayer de voir si je pouvais me faire de l'argent en écrivant. Donc, voilà, en gros. En fait, la finalité dans tout ça, c'est ce que je commence à pouvoir mettre en place là en 2021. C'est, je me disais déjà il y a 6 ans, comment on fait pour vivre en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur, pour ne pas avoir trop d'attaches, pour ne pas avoir de CDI, pour pouvoir voyager et vivre partout dans le monde, quoi. Donc, en gros, j'avais déjà cette idée-là il y a 6 ans. Je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai fait des piges pour... franchement, j'étais payée... une misère, quoi. Enfin, je pense que...
Oui, je connais bien aussi.
j'allais dire, je pense que tu sais. Je me suis formée au fur et à mesure, donc ça fait 6 ans que je fais ça. Et en gros, quand je me suis installée au Guatemala, j'ai commencé à écrire de manière plus poussée, on va dire, jusqu'à mettre en place, terminer un livre que j'ai fait publier. Et en gros, il y a ça qui s'est mis en place. Et ce livre parle effectivement de certains sujets féministes. Donc on pourra y revenir après. Donc,
et du coup, c'est le titre du livre, on le rappelle, c'est Child Free, je ne veux pas d'enfant.
Voilà.
Qui donc, a été publié en 2019 aux éditions...
Spinel,
ouais. Voilà.
Et donc en gros, il s'est passé ça. Et en fait, ce choix d'écrire un livre, il s'est imposé à moi parce que j'aimais lire aussi, du coup, ça va ensemble en général, et j'aime beaucoup débattre, je suis quelqu'un qui a quand même, on peut dire, on me qualifie de grande gueule, certainement, en général, et j'ai des idées, des valeurs qui sont assez tranchées, assez radicales, et je les assume beaucoup, et j'aime bien faire de la pédagogie et de la transmission. Et du coup, il y a eu ça qui s'est mis en place, et en fait, quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que quand tu es une femme, surtout, même quand tu es un homme, t'as cette pression-là, mais un petit peu moins, on te dit que forcément, quand tu te maries, il faut faire un enfant. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait... un sujet à creuser. J'étais déjà quand même sacrément féministe, j'étais déjà sacrément écologiste, je sais pas comment on dit.
Écologiste, on peut le dire.
Je suis écologique. ça se dit moins, effectivement. Du coup, ouais, ça s'est fait un petit peu, au fil des années, quoi. Donc, en gros, j'avais ces valeurs qui étaient hyper ancrées et ce besoin de les transmettre et d'en parler. Et donc, en gros, je me suis rendu compte de cette pression à faire des enfants. Et je me suis rendu compte que dans la francophonie, il y avait très peu de gens qui parlaient de ça, en fait. Que c'était hyper tabou. Ou alors qu'il y avait personne d'autre que moi qui voulait pas d'enfants. Ce dont je doutais quand même un petit peu. Mais du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à me dire, sur Internet, il y a pas grand chose. Donc j'ai commencé à créer un compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants. Et là, il y a commencé à avoir des gens qui me suivaient et qui s'intéressaient à la thématique, quoi. Donc il y a eu ce compte Instagram en même temps que la publication de l'essai. Donc Child Free, je ne veux pas d'enfants. Et quand on est rentré du Guatemala avec mon mari, je me suis dit, bon, le tourisme, ok, voilà. Il y a ça quand même qui commence à prendre de plus en plus de place parce qu'au début, c'était des activités sur Internet où j'écrivais des articles de blog pour moi. J'écrivais sur ce compte Instagram pour moi, tu vois. Au début, t'as 500 personnes qui te suivent. Et en fait, ça grandit. Tu reçois plein de messages, plein de témoignages. Et tu dis, c'est marrant, il y a quand même... ça pose question. Alors, soit t'as des réactions très virulentes, soit très positives. Et tu dis, en tout cas, ça questionne les gens et ça les fait réagir. Donc... c'est qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant à traiter. Et du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, au bout d'un an et demi, j'avais toujours ce boulot dans des agences de voyage. Et je me suis dit, moi, ça me plaît plus trop. Donc, en gros, j'ai quitté mon boulot en agence de voyage en me disant, je vais essayer de commencer à vivre vraiment de mes écrits et peut-être commencer à vivre de mes activités sur Internet, en fait, quoi. Pourquoi pas ? C'est des métiers qui sont très nouveaux, mais why not, quoi ?
J'ai l'impression que ton parcours, c'est surtout que tu suis tes passions
ouais,
plus que la raison. Et je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui encore, on puisse se dire, moi j'ai envie de faire un métier par passion, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui, enfin pas tous hein, bien sûr, hein, mais qui sont plutôt dans une démarche, à vrai dire, bah, je vais faire ce travail-là, parce que bon, ça rapporte quand même pas mal, puis je me sens bien dans le truc, mais on perd un peu la notion de métier passion, et toi, c'est vraiment ce que je ressens en te parlant, et je trouve ça incroyable.
Mais t'as tout à fait raison, et c'est une idée que j'avais en tête tout à l'heure, et j'ai oublié de la dire, mais c'est exactement ça, j'allais dire ça. En fait, je pense que ce qui est, tu me parlais de quel conseil tu donnerais, en fait, c'est d'essayer de suivre son instinct et de suivre ses envies. Alors, je sais que c'est pas toujours possible et possible à mettre en place à un instant T, mais là, quand je prends tout le recul de me dire, en fait, il y a déjà 6 ans, j'avais créé ce statut d'auto-entreprise en me disant un jour, j'en vivrai. Et là, c'est trop marrant qu'on se rencontre aujourd'hui parce qu'en fait, là, j'ai dû reprendre un boulot à mi-temps parce qu'en fait, bah, j'ai été un peu optimiste hein, il y a un an et demi quand j'ai quitté mon dernier boulot dans le tourisme en me disant « Ok, je vais vivre de mes écrits, je vais vivre de mes activités sur Internet, etc. » Bon, il s'avère que ça n'a pas très bien marché au début et bon, je gagnais 400 balles par mois, c'est pas foufou quoi.
Donc, mais ça peut arriver, on a le droit de se planter.
On a le droit, ouais, exactement. Et, ça, et en plus, je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui si je m'étais pas plantée plein de fois quoi. Je pense que clairement, faut pas prendre les échecs comme des échecs, c'est des étapes vers la réussite plutôt. Et du coup, ouais, j'ai repris un boulot à mi-temps et là, en fait, il y a 2 semaines, j'ai enfin démissionné du dernier CDI de ma vie, peut-être, je sais pas, hein, peut-être que je redeviendrai salarié un jour, mais en tout cas, maintenant, je suis auto-entrepreneur et j'ai mon statut voilà, de freelance, quoi. Et en gros, je vis pleinement des piges que j'écris pour divers médias. Là, j'écris pour la RTBF, donc il y a un site d'information belge. J'écris pour un magazine Urbania. J'écris des billets de blog très intimes et très, très perso sur plein de choses. Très
tu, fais, tu fais aussi des séminaires ouais. Avec du coup plein de thématiques différentes. Donc c'est des webinaires, on appelle ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc c'est tous les mois.
Alors là, en ce moment, c'est toutes les semaines. C'est tous les mercredis. Ouais. Donc c'est effectivement c'est une plateforme que j'ai lancée de webinaires de débats féministes, en tout cas de débats engagés, politisés, etc. Donc avec des auteurs, des autrices, des militantes ou des entrepreneurs sur plein de sujets. Donc on parle de sexualité, on parle de la norme du couple. On parle de la norme de l'hétérosexualité, on parle de... Enfin, en fait, vraiment de déconstruire plein de choses, quoi, qui sont des réflexions que moi, je mène au quotidien et j'avais pas envie de le faire toute seule non plus. J'ai envie de mettre sur le devant de la scène plein de personnes qui m'inspirent, moi, au quotidien aussi. Donc, il y a ce pan-là, il y a les articles que j'écris, il y a le compte Instagram qui a quand même de l'importance maintenant. On est 22 000.
22 000,4.
Oh.
Aux dernières nouvelles,
ah ouais
oui. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal, une belle communauté.
Ouais, ouais, bah surtout sur des sujets qui sont quand même touchy entre guillemets. Enfin, voilà, c'est pas, je me prends beaucoup de remarques négatives aussi. Hein, c'est normal.
Bah,
hein, mais...
Comme dans tout domaine, finalement, ouais. Il y a des gens qui apprécient, d'autres pas. Ouais, ça dépend de quoi tu parles finalement. Pour toi, est-ce qu'il y a un lien entre les multiples activités professionnelles que tu as fait au cours de ta vie et de ta carrière et même de tes études ?
Le lien, ce serait le fait que la liberté. Je peux peut-être dire ça dans le sens où, enfin, rien que les études, en fait, mon master, donc en 5 ans, j'ai fait 3 écoles différentes, quoi. En fait, j'ai toujours ce truc d'aller voir toujours ailleurs, en fait. C'est marrant, mais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je discutais de ça parce qu'on me dit souvent, mais du coup, tu fuis quelque chose, enfin, t'as un traumatisme, il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu fuis, en fait, tout le temps. Et en fait, dès que ça se passe bien dans ta vie, et ben, hop, tu démissionnes ou hop, tu changes de truc alors que tu aurais pu faire une carrière brillante dans une agence comme si, en fait, là, ce que je faisais n'était pas aussi valable. Alors pour moi, c'est la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir posé ma démission et de vivre en tant que freelance. Enfin, pour moi, c'est la plus grosse réalisation pour l'instant dans ma
vie. C'est un accomplissement.
Vie, ouais, je suis hyper fière et c'est vraiment parce que c'est ce que je veux faire depuis des années, quoi. Mais ouais, je dirais plus la soif de liberté, de jamais se sentir enfermé dans quelque chose et l'envie de toujours aller voir ailleurs ce qui se passe en fait, quoi. La curiosité, peut-être.
Être curieux.
Ouais.
Et passionné.
Ouais, voilà.
C'est un beau portrait. Et au vu de tout ce que tu as fait, changer autant de fois de parcours, tu t'es pas dit à un moment peut-être que ça pose un problème? Ou alors au contraire, est-ce que bah ouais, carrément j'ai le droit, on s'en fout, allez, on envoie tout voler et puis c'est parti, quoi.
Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, je me suis déjà posé plusieurs fois la question de savoir si c'était un problème, parce que c'est vrai qu'un CV où, au bout d'un certain moment, un recruteur ou une recruteuse te regarde en disant « Alors là, je vois que tous les ans et demi, vous changez de travail. Qu'est-ce que vous comptez faire chez nous ?»
Alors, moi, ça fait plein d'expériences. T'avais pas trop de mal à tout rentrer dans le CV, d'ailleurs?
Comme non, c'est bah, sur une page... j'ai lu d'un peu. Ouais, j'ai lu d'un peu. Alors, et ouais, bah, ça, c'est vrai que ça dépend. Hein. Il y a des pays où le CV peut faire 5 pages, hein, ils s'en foutent. Mais le faire rentrer dans une page, c'est difficile, ouais, je trouve. Mais Mais j'ai lu, je choisis les informations les plus importantes à chaque fois. Mais ouais, il y a des recruteurs qui m'ont déjà dit, vous comptez rester chez nous ou vous allez partir dans un an et demi? Et du coup, alors honnêtement, c'est pas bien de le dire, mais je mens, hein, parce que à un moment, faut bien se faire recruter. Donc ça m'arrivait de dire, le boulot que je viens de quitter il y a 2 semaines, je suis restée 10 mois dans cette entreprise et je leur avais dit, là je reste parce qu'avec mon mari, on vient d'acheter un appartement à Bruxelles. Donc c'est une nouvelle vie qui commence, on est tombé fou amoureux de la ville, c'est génial et tout. Tu parles au bout de 10 mois, du coup, c'est ma démission, quoi. Bon, je vais pas déménager tout de suite de Bruxelles, mais certainement dans quelques années, quoi. Et ouais, t'es un peu obligée parce que c'est un petit peu mal vu, mais je pense que ça va changer parce que c'est pas si anecdotique que ça d'avoir un parcours avec plein d'expériences différentes. Donc je pense que ça va évoluer. Je pense que les recruteurs vont commencer à déjà être de nos générations à nous, en fait, tout simplement, et se rendre compte que c'est pas grave, quoi. Et ça veut pas dire que tu fais mal ton travail, ça veut pas dire que t'es pas fiable, bien au contraire.
Tu le prenais comment aussi, parce que au-delà du fait du regard des recruteurs, toi-même tu te disais, c'est vrai qu'il y a peut-être un moment je change pas mal de fois de parcours, il y a peut-être un souci ou pas, j'en sais rien.
Ça m'est déjà arrivé de me poser la question, parce que il y a un moment, une agence de voyage dans laquelle je travaillais à Paris, donc c'était en 2016-2017, en gros j'avais pu accéder au poste de manager junior pour ensuite devenir manager d'une équipe de 15 personnes, etc. Ça se passait super bien. À cette époque, j'avais vraiment une vie parfaite d'un point de vue extérieur, dans le sens où super bon taf à Paris, avec le salaire qui va bien pour vivre correctement à Paris, entre guillemets. C'était pas fou parce que le tourisme, c'est pas le secteur qui paye le mieux. Mais voilà. Ça peut très bien payer, hein, je dis pas, hein, mais quand t'habites à Paris, déjà le niveau de vie est quand même compliqué. Donc faut très bien gagner sa vie. Et c'était pas trop le cas, mais ça allait, c'était chouette. Des propositions pour devenir manager d'une équipe 15 personnes, etc. Enfin, trop bien, j'ai un super appart, CDI, tout va bien. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Et j'ai commencé à douter en me disant, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu essayes pas de fuir quelque chose, justement? Parce qu'on me l'avait déjà rabâché assez de fois pour que je commence à douter moi-même. Et en fait, je me suis dit, c'est juste que là, c'est vraiment, il faut prendre du recul par rapport aux attentes et aux normes. C'est vraiment ça, quoi. Parce que oui, les attentes font que pourquoi tu veux partir d'un métier trop bien, d'une vie trop chouette, alors que tout se passe bien, en fait, pour quelle raison? Et la raison, c'était juste, je sais pas, pourquoi pas, quoi. Parce que la vie, elle est faite de plein de choses, et autant je comprends le besoin de stabilité, le désir d'ascension, de carrière, etc., je l'entends totalement, et je le remets pas en question, mais moi, en tout cas, c'est pas du tout ce qui m'appelle, et ce qui me fait fantasmer, quoi. Mais c'est vrai que, quoi, ça a pris du temps pour assumer vraiment à 100% que, non, c'était pas une fuite, c'était vraiment juste un désir de continuer sa vie d'une manière, vraiment, avec plein d'expériences de vie, et c'est ça qui me remplit de bonheur à chaque fois, quoi. Donc c'est difficile de l'accepter, mais au bout d'un moment, après, quand t'es sûr de toi, en général, les gens, ils arrêtent de t'embêter.
J'aimerais un peu revenir sur ton compte Instagram, dans lequel, malgré le nom, tu abordes des thématiques qui, des fois, n'ont aucun rapport. Et je trouve ça juste dingue. Qu'est-ce qui te motive à parler de toutes ces choses? Parce que finalement, c'est un compte qui est multidirectionnel, quoi. Tu peux autant parler, de l'élevage de brebis dans l'Alaska. Je dis des bêtises, mais ça peut vraiment être de tout et n'importe quoi.
Complètement. En fait, à la base, quand je l'ai créé, c'était vraiment par rapport au désir de ne pas être parent, qui est quand même un choix, une décision hyper stigmatisée, très mal comprise, etc. Et en fait, au fur et à mesure, moi j'ai un peu grandi avec ce compte, dans le sens où ça fait 2 ans et demi, je crois, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je lis que des livres de théorie féministe, etc. Enfin, vraiment, c'est devenu ma vie à part entière, et je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais faire des liens entre cette décision qui, à la base, paraissait personnelle, mais qui, en fait, est liée à des engagements féministes, à des engagements écologiques, à des engagements politiques, etc. Et du coup, sur les 22 000 personnes qu'il y a, il y a peut-être la moitié de parents, la moitié de non-parents. Et c'est trop chouette parce que on n'est pas en opposition. Le but, c'est vraiment de dire, il y a un traitement de la parentalité qui est très patriarcal, qui est très sexiste dans notre société. Moi, j'ai envie d'être du côté juste de... Est-ce qu'on pourrait peut-être penser à juste considérer la maternité autrement, en fait, et essayer de faire en sorte qu'elle soit pas limitante pour les femmes d'un point de vue de carrière, parce que le fait de faire des enfants, ça limite les femmes dans leur carrière. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que le congé soit plus égalitaire entre les deux parents quand c'est le cas, quand c'est un couple hétérosexuel ou homosexuel, n'importe. Enfin, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait tout ça c'était lié, et les gens le prennent plutôt bien, dans le sens où on réfléchit tous ensemble, en fait. Je me considère comme une alliée des luttes antiracistes, etc. J'ai aussi des réflexions sur le système capitaliste dans lequel on évolue. Enfin, le but, c'est pas tant d'apporter des réponses, mais de se faire se poser des questions et qu'on réfléchisse tous ensemble, en gros.
Voilà, tout simplement. C'est pas donné des, c'est pas donné de solution.
Non, c'est pas moralisateur en plus. Hein. J'essaye de.
Moi, j'ai lu et j'ai pas trouvé ça du tout moralisateur. Au contraire, justement. En fait, t'essaies de donner un peu une perspective. Tu dis, voilà, tiens, il y a ce sujet-là. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on en discute ensemble. On va faire un séminaire. On va discuter un peu autour de petits messages. Enfin, et je trouve que ça déborde de positivité, mais finalement, malgré les sujets qui des fois sont assez ardus, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau même politique, quand tu vas sur ce compte. C'est smile attitude.
Ah, trop bien.
Ouais. C'est cool. En tout cas, c'est mon ressenti.
Bah, chouette.
Je sais pas si c'était quelque chose que tu voulais. C'était une priorité peut-être pour toi ou.
Alors, ça, c'est venu au fur et à mesure parce que quand j'ai créé le compte Instagram, oulala, je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit. J'étais très énervée. En fait, je découvrais le sexisme. Hein. C'est un peu ça. Hein. Bettina s'ouvre au sexisme. Bonjour. Je découvrais que, on était obligé quasiment pour la plupart des gens de faire des enfants quand on est une femme, etc. Et du coup, j'étais beaucoup plus énervée que ça. Et en fait, au fur et à mesure que tu grandis ta pensée politique et militante, on va dire, avec l'aide de témoignages, de lectures, ce genre de choses, je grandis ma réflexion et du coup, forcément, tu deviens plus serein, enfin plus sereine dans mon cas, parce que t'argumentes mieux, t'es vraiment beaucoup plus sûr de toi, beaucoup plus sûr de tes positions et du coup, au fur et à mesure, ça devient très 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 positif, je pense. Enfin, c'est cool que tu dis ça, franchement. J'essaye de me dire, on parle de sujets très important et très pas fun parfois, clairement, mais après il y a aussi ça reste un compte Instagram, donc tu vois, c'est aussi les gens me suivent parce que je parle de moi, genre je fais des vidéos un peu drôles de temps en temps, je parle de mon quotidien, je parle de plein de choses, quoi. Donc il y a ce mélange de création de contenu militant et création de contenu juste partage de style de vie aussi, donc c'est chouette et c'est vraiment ça que j'essaye de garder, c'est vraiment un mélange de essayer de vivre de cette plateforme qui est maintenant monétisée et je vois pas pourquoi je ne tirerais pas profit de cette plateforme parce que ça me plaît d'essayer d'en vivre, mais tout en gardant la bonne balance entre je veux défendre des idées qui sont fortes, j'ai envie de faire réfléchir les gens et qu'on réfléchisse ensemble et aussi qu'il y ait un petit peu de contenu positif et plus léger parfois, quoi.
Ces réflexions un peu personnelles que tu t'es finalement construites tout au long de ton cursus à la fois universitaire, professionnel ou tout au long de ta vie, ça t'a aiguillé sur tes choix de carrière, sur tes choix de cours, sur tout ça ?
Si ça m'a aiguillé, je ne sais pas. Je pense que c'est pas spécialement très réfléchi. Je sais pas si c'est la meilleure manière de faire, mais en tout cas, pour l'instant, ça a plutôt réussi, quoi. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est toujours bien de dérouler le parcours d'une personne. Parce que là, imaginons si aujourd'hui je m'étais juste présentée en mode bonjour, je vis d'Instagram, je vis de mon blog, je vis de mes piges dans des médias. Les gens, ils sont là, trop bien, t'as trop de la chance et tout. Ouais, mais en fait, non, ça fait quand même 6 ans que j'en rêve et 6 ans que je galère parfois à être payée 0,001 centime le mot pour faire une pige dans un média qui te... Voilà, il acquiesce. Et Donc, ça se construit pas tout seul. Et c'est chouette de filer le parcours d'une personne et se rendre compte qu'il faut plein d'étapes pour réussir à atteindre en général un idéal de vie. Et encore, là, moi, je parle de mon idéal maintenant, donc bientôt 30 ans, etc. Mais mon idéal, il va certainement évoluer vu comment je suis.
Parce que justement, toi qui as la bougeotte, est-ce que tu comptes encore changer de voie ?
Alors, pour l'instant, je sais pas. Franchement, j'avoue que tout ce que je fais là, ça m'épanouit et vraiment à 1000%. Et comme c'est ce que j'ai projeté, c'était vraiment une envie depuis plusieurs années, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place, mais après j'ai vraiment envie que ça évolue dans le sens où j'aimerais bien peut-être reprendre des études pour me spécialiser dans certains domaines. Éventuellement, je me dis, j'aimerais bien faire une thèse, j'aimerais bien essayer de poser encore plus mes arguments, ma pensée, de faire de la recherche pour étendre encore plus mes projets de pédagogie, de transmission, etc. Donc on verra, mais en tout cas ça restera dans la même lignée de désir d'écriture, de pédagogie, de réflexion sur des sujets sociétaux, féministes, etc. quoi, clairement.
Donc on se retrouve dans un an et demi pour savoir où tu es.
Ah ouais, c'est ça. Je serai peut-être encore à Bruxelles, je pense, assez sûr, à mon avis. Un an et demi, ouais, ça va.
On va conclure avec ma question préférée, qui va s'adresser directement aux auditeurs de ce podcast.
Ouais.
Quel message t'as envie de faire passer aux gens qui nous écoutent ?
Chers auditeurs, chères auditrices, quel est le message que j'ai envie de faire passer ? C'est que... Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment et que je regrette de ne pas avoir fait dans mes études. C'est en fait d'avoir considéré que les 8 heures par jour que je passais à l'université, en école, etc., c'était toute ma journée. Et je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de parcours d'étudiants et d'étudiantes qui font autre chose, style monter une association ou monter un projet dans l'école ou même travailler à côté. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours considéré que quand on faisait une chose, on pouvait faire que cette chose-là. Alors qu'en fait, bah, quand en 2015, j'ai monté mon statut auto-entrepreneur, bah, j'avais toujours un métier à côté. Mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, je peux faire deux choses à la fois. Enfin, on peut commencer à monter un autre projet tout en ayant la sécurité d'un boulot. L'un n'empêche pas l'autre. Et sinon, en conseil, c'est ouais, essayer de l'introspection, c'est bien pour essayer de se connaître et vraiment de faire le plus ce qui est en son pouvoir pour bah, poursuivre ses envies et ne pas se limiter à bah, des normes sociales qui sont franchement trop limitantes, quoi, parce qu'il y a ce modèle, on en parlait tout à l'heure, de, il faut faire des études, il faut trouver un CDI, puis ensuite prendre un appartement pour éventuellement se mettre en couple, se marier, bon, on s'en fout, mais faire des enfants, etc.
C'est un modèle... Il y en a pour qui ce modèle leur correspond,
j'allais dire, mais
il y en
a d'autres qui est
pour
viable.
Qui ça correspond peut-être pas.
C'est ça, c'est un modèle qui est tout à fait viable, tout à fait honorable et respectable, c'est pas du tout ça le sujet, c'est plus que c'est dommage de dire qu'il n'y a qu'un seul modèle valable alors qu'en fait on est 8 milliards d'individus sur Terre bientôt. Je ne pense pas qu'on soit 8 milliards à aspirer à la même chose, c'est impossible. Donc ouais, c'est plus essayer de s'écouter, et même si parfois on a l'impression que c'est un peu bizarre parce qu'on reçoit des commentaires qui sont un petit peu jugeants ou ce genre de choses, bah, c'est pour essayer de faire la part des choses, quoi, et de se dire si c'est bien pour moi, en tout cas si ça m'épanouit, c'est la bonne voie à prendre, quoi.
Un grand merci Bettina pour le moment qu'on a passé ensemble.
Bah, merci beaucoup.
Moi ça m'a vraiment inspiré, bah, j'espère que ça t'a plu.
Bah ouais, carrément. C'est assez rare de parler que je parle en podcast de mon parcours pro ou d'études, quoi. En général c'est très ancré féminisme, je ne veux pas d'enfants, etc. Donc c'est très cool, j'aime bien.
Justement, Bettina, on peut retrouver sur Instagram ton compte @ je ne veux pas d'enfant,
ouais.
Tout attaché sans apostrophe.
Tout à fait, et sans S.
Sans S. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Moi, ça m'a permis d'apprendre en tout cas plein de choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, il y a aussi donc ton livre Child Free, je ne veux pas d'enfant également, aux éditions Spinel.
Ouais. Et un deuxième livre qui sort dans 3 semaines.
Et qui s'appellera comment ?
Sans honte, sans comme le sang menstruel. Voilà. Si ça vous donne une petite idée sur la thématique, je pense. Mais ouais, c'est un livre qui parle du tabou des menstruations, de tout ce qu'il y a autour d'un point de vue sociétal, de comment on a créé la honte en fait sur le sang menstruel.
Ok, voilà. Et bah c'est trop cool. Et bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil bien évidemment. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast, et j'en passe. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci pour vos écoutes et vos retours. Continuez à le faire parce que ça me fait vraiment plaisir, en plus ça me permet d'avancer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcast. Altitude est un podcast réalisé grâce à l'Université catholique de Lille. À très vite et prenez soin de vous !